Au nom des organisateurs, je voudrais remercier les membres du panel de participer à cette table ronde. Et puis, si vous avez suivi toute la conférence, vous aurez vu qu'il y a tellement de points de vue différents, tellement de points de vue analysés, tellement de voix dans la discussion sur le changement climatique, quel que soit le nom qu'on leur donne. Nous espérons que certaines de ces positions sont compatibles et vont enrichir le panorama sur le climat et sur d'autres débats comparables. Ici, nous allons nous concentrer sur les besoins en future recherche. Donc la question, c'est quel genre de recherche devrions-nous mener à l'avenir? Je crois que nous allons suivre l'ordre du programme. Je vais dire quelques mots sur les membres du panel. Tout d'abord, Alain. Donc, Alain Nadahi vient du CIRED, qui est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Il est également directeur de recherche au CNRS. Donc, je ne parlerai pas beaucoup de vos travaux. Je sais que vous avez fait beaucoup sur la politique énergétique. J'ai vu certains de vos papiers récents. Vous avez travaillé sur l'énergie verte, onshore et offshore. Donc ça, c'était pour Alain. Nous avons également Valérie Masson-Delmotte, qui vient de LSCE, c'est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est donc climatologue et qui a travaillé sur la quantification et coût des variations du climat et les mécanismes responsables de ces changements en utilisant des mesures faites d'après des archives comme des carottes et des éléments comme cela. J'aimerais également mentionner le fait qu'elle a fait beaucoup de travaux importants de vulgarisation. Nous avons ici deux membres du panel que la plupart d'entre nous ont eu le plaisir d'écouter déjà. Mianna Lassen, qui est intervenue hier, qui est anthropologue et qui travaille depuis environ 10 ans au Brésil et qui auparavant était à l'Université de Boulder au Colorado. Sa recherche s'est concentrée sur la politique des sciences de l'environnement aux États-Unis et au Brésil, et en faisant particulièrement attention aux dynamiques socioculturelles et aux questions de développement. Et hier, vous nous avez fait une présentation très intéressante sur l'ethnographie, c'est-à-dire le visage humain des sceptiques du climat, et vous avez une approche culturelle dialogique. Riley Dunlap nous a fait une communication ce matin. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, il est professeur de sociologie à l'Université de l'État d'Oklahoma, l'un des fondateurs de la sociologie de l'environnement, qui a étudié les dimensions sociales et politiques des questions d'environnement, et ce depuis une quarantaine d'années. Il se concentre actuellement sur le déni du changement climatique et la polarisation politique en matière de climat. Je vous remercie donc d'être ici. Si nous suivons l'ordre du programme, C'est donc Alain qui va commencer.
So, thank you very much.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je ne vais pas dire grand-chose. J'ai travaillé essentiellement sur les énergies renouvelables et pas sur la controverse climatique. Donc, ça serait peut-être mieux que les autres parlent. Et plus tard, je pourrais peut-être apporter quelques références sur la manière dont les questions du climat sont abordées dans le cadre des énergies renouvelables. Alors, Riley ? Pour moi, je ne savais pas exactement ce que nous devions faire aujourd'hui. L'idée était de parler des recherches qui devraient être faites ou bien de ce que l'on peut faire, par exemple, sur le déni du changement climatique. J'ai préparé une petite bibliographie qui a été mise à votre disposition dans le dossier, et il y a des tableaux. Et quand vous regardez cette bibliographie, malgré ses fautes de frappe, vous voyez l'évolution. Il y a d'ailleurs un article de Myona de 1999 et puis après de 2003. Mais c'est vraiment au cours des 3 ou 4 dernières années que les scientifiques ou les chercheurs en sciences sociales ont repris cela. Regardez les dates des articles. Il y en a même de 2010, 2011, 2012. Quand je regarde le travail qui a été fait, il me semble que l'un des thèmes de recherche les plus populaires, c'est l'analyse des médias. Beaucoup de travaux sur Murdoch et son empire, le Wall Street Journal, par exemple, avec beaucoup d'analyses qui ne sont pas nécessairement dans la bibliographie, ont été publiés par Greenpeace et d'autres organisations. Donc beaucoup de travaux qui montrent comment les médias conservateurs, cette caisse de résonance, cette chambre de résonance conservatrice, comment elle déforme les questions de changement climatique. D'autres sont évidemment internationales, comme Murdoch au Royaume-Uni également. Il y a eu un peu de travail sur l'utilisation des blogs et les blogueurs. Et les gens étudient ce qui est posté sur des blogs. Et je crois que sur ces blogs, nous devons faire davantage de travail pour faire des analyses, par exemple quantitatives et qualitatives, des commentaires, pour voir d'où ils viennent. Mais ici, on parle de représentation. Dans cette conférence, beaucoup d'entre vous étudient la manière dont les choses sont représentées dans les médias. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt qui est derrière la promotion de ces textes. Quels sont les intérêts de ces gens-là? Quelles sont leurs motivations? Est-ce que ce sont ces think tanks conservateurs ou est-ce que ce sont aussi des individus? Enfin, qui intervient? Parce que la plupart de ces blogueurs sont extrêmement conservateurs. Ce sont des personnes extrêmement conservatrices. Alors, sont-ils liés aux think tanks conservateurs ou pas? Sont-ils financés par les think tanks? Je suis sûre qu'un certain nombre de gens le font d'eux-mêmes. Mais nous devons séparer les institutions, les organisations d'un côté des individus. Et je crois qu'il va falloir faire plus de travail sur la psychologie individuelle, si on peut l'appeler ainsi, et sur les organisations et la culture. Moi, quand j'essaie d'étudier ce déni du changement climatique, je vois trois niveaux. Aux États-Unis, au niveau culturel, au cours des 30 dernières années, il y a eu une évolution colossale vers la droite. Avec ce que l'on pourrait appeler le fondamentalisme du marché. Le marché devient la nouvelle religion. C'est le marché qui doit régler tous les problèmes. Et c'est tellement intégré dans la culture américaine maintenant qu'il faut y faire très attention. Et puis il y a la vue anti-scientifique qui ressort. Et ça me ramène à mon premier commentaire sur le fondamentalisme du marché qui vient des conservateurs classe supérieure, mais conservateurs économiques, différents de conservateurs sociaux, droite religieuse, col bleu, classe inférieure, qui sont quand même différents. Mais tout cela est un vrai terrain ou terreau pour le développement d'un conservatisme politique très fort. Et vous avez quelques exceptions qui ont voté pour Obama et qui le disent pour établir leur crédibilité, mais dans l'ensemble, ce sont des conservateurs. Et donc, il faut travailler ces thèmes culturels sur l'individualisme, etc. Et puis, vous avez les organisations sociales. Par exemple, les compagnies pétrolières, les fondations conservatrices, les think tanks conservateurs, tout ça, nous avons besoin de travailler davantage. Mais est-ce qu'on en vient au niveau psychologique? Moi, quand j'ai parlé à quelques personnes parmi les sceptiques, en général, je ne dis pas que ce sont des gens qui sont dans le déni ou qui nient le changement climatique. Les opposants, ceux qui sont à contre-courant, je ne les appelle pas ceux qui sont dans le déni. Mais ce sont des individus qui vont, de par leur nature, à contre-courant, par définition. Or, si vous êtes un universitaire, vous avez certainement un collègue qui est comme ça, qui va systématiquement à contre-courant. Alors, est-ce que c'est une dynamique sociologique? Freeman Dyson, par exemple, qui est un physicien très connu, qui n'est pas un archi-conservateur. Il est critique de la science du climat, mais il fait partie de ces gens qui sont constamment à contre-courant. Donc il faut voir la dynamique psychologique. Miana a fait du travail de pionnier dans cette discipline. Car dans la communauté scientifique, et notamment au début, il y a eu des conflits de paradigmes dont vous avez parlé avec un article préparé pour un symposium que j'ai produit. Vous avez une bataille au début et une bataille avec les physiciens dans lequel l'Institut Marshall a joué un rôle essentiel. Vous avez des divergences de générations, de professions, comme vous les avez soulignées. Mais les physiciens semble être un bouillon de culture pour les sceptiques. À Princeton en particulier, il y a un petit groupe de sceptiques dans la Société des physiciens américaines qui met en cause tout ce qui est avancé sur le changement climatique. Ils sont constamment en train d'écrire des lettres, produire des opinions. Et je crois, Miana, que vous avez dit que certains de ces personnes sont vraiment très, très intelligents. Et il y a cette espèce de mentalité. Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour essayer de comprendre le déni du changement climatique, il faut voir le niveau culturel, le niveau organisation, le niveau personnel. Et nous avons besoin de faire des recherches qui comprennent les paradigmes selon les disciplines qui orientent les gens dans telle ou telle direction. Il y a énormément de choses à faire et je dirais que, ou j'inviterais les gens à aller au-delà des simples représentations pour essayer de voir les sources de ces représentations pour progresser. Mais c'est un domaine absolument fascinant. Même, et c'est la dernière chose que je vais dire, au niveau plus personnel et l'interpersonnel. Vous avez quelqu'un comme Hans von Storch ou Judith Curry maintenant aux États-Unis. Vous avez parlé de Roger Pilkey Jr. Ce sont des personnalités à contre-courant, mais qui disent quelque chose qui blesse d'autres. Alors, ils sont critiqués et alors ils disent « Ah, vous m'attaquez ?» Et ils reculent, ils se sentent persécutés. Du coup, la fois d'après, quand ils disent quelque chose de critique, c'est encore plus critique, avec plus de retours de bâton, qui crée un espèce de modèle. Donc, il y a un phénomène auto-alimenté qui fait que ça les pousse de plus en plus aux marges. Même von Storch, c'est l'impression que j'en ai. C'est comme si ils essaient d'être de bons sceptiques qui disent la vérité, mais quand ils disent la vérité, ils sont critiqués. Et du coup, ça les encourage à être peut-être plus excessifs.
Mainstream climate.
Kerry donc s'inscrit parmi maintenant ceux qu'on considère comme faisant partie de la communauté du déni. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on travaille sur la psychologie, il faut qu'on ait une psychologie sociale sur les relations interpersonnelles. On a besoin de travailler au niveau organisationnel, une analyse des médias, au niveau culturel aussi. Donc vraiment, c'est un domaine très vaste, très intéressant.
Yes. So what I would like to say.
Bien. Alors moi j'aimerais faire quelques commentaires personnels sur ce point et tout d'abord sur les voix dissonantes, cette expression. Pour moi, ça c'est un peu le contraire de l'harmonie entre les scientifiques. Et c'est un peu étrange parce qu'alors même que l'on travaille pour parachever le prochain rapport GIEC, eh bien je suis au cœur de discussions et débats constants sur le niveau de la mer, sur la crédibilité des modèles sur le climat, sur les projections des modèles du climat à l'échelle locale pour l'hydrologie, comment les utiliser pour guider nos stratégies d'adaptation. Et le scepticisme est au cœur même de la méthode scientifique. Donc, c'est une méthode d'information qui joue sur le scepticisme, cette désinformation, ça semble très fructueuse. Ça permet d'attirer certains scientifiques qui sont fiers d'être sceptiques. C'est très efficace dans le débat public pour avoir ainsi des discussions en face à face. Et aux États-Unis, eh bien, cette méthode s'est avérée extrêmement efficace. Alors, de mon point de vue, nous n'avons jamais émis tant de CO2 en dépit de toutes les mesures politiques, négociations. Les concentrations de CO2 augmentent, les émissions de CO2 augmentent. Les États-Unis et le Canada développent d'autres combustibles fossiles non conventionnels, le gaz de schiste. Et on tue en ce moment même le développement des énergies renouvelables. L'hiver dernier, on n'a jamais utilisé autant de charbon en Europe parce que c'était si bon marché. Donc, cela s'avère extrêmement efficace, c'est ce que je souhaitais dire. Et le simple fait que les activités humaines contrôle le climat, on procède à une expérience à taille réelle, eh bien, je crois que les activités humaines, écosystèmes, sont vulnérables au changement climatique anthropique. C'est ce qui ressort des études. Et c'est extrêmement choquant. Ça remet en cause des valeurs profondes. Qu'est-ce que le progrès, par exemple? Et on a dit que ces valeurs profondes qui étaient remises en cause étaient celles qui avaient trait à la liberté. Je pense qu'il s'agit aussi des valeurs qui ont trait à la notion de croissance infinie. Et si je me reporte à la façon dont j'ai pu discuter avec des sceptiques en France et aux États-Unis, eh bien, en France, il y a eu un essor du scepticisme après la conférence de Copenhague. Cela a été dû au fait que les médias ont massivement présenté les courants dominants sur le changement climatique sans parler, sans évoquer les incertitudes avec la cible de 2 degrés. Et beaucoup ont réagi à cela parce que c'était comme si on s'efforçait à l'extrême de convaincre les gens à l'aide d'un message trop simpliste. Et en mars 2010, un matin, je me suis réveillée en écoutant la radio et il y a eu donc deux sceptiques qui ont pu parler pendant des heures à l'heure la plus écoutée et qui disaient des choses vraiment stupides sur le climat, mais en donnant beaucoup de détails. Et des choses pour lesquelles on peut prouver en 5 secondes qu'elles sont fausses si on a le temps. Mais à l'époque, eh bien, j'ai pensé que c'était notre rôle en tant que climatologue de réagir. Mais la question, c'est de savoir comment réagir. Donc, ce que nous avons fait à ce moment-là, c'est que nous avons repris les arguments point par point des géologues français qui étaient largement exposés dans les médias et on a pu montrer que c'était simplement ridicule. On a demandé un débat organisé au sein de l'Académie des sciences où certains des sceptiques français sont bien introduits à des niveaux élevés. Et je dois dire que je pense que ça a été utile, mais nous avons été accusés d'essayer de bâillonner ces voix dissonantes. Et ça a été perçu comme la volonté de notre part de ne pas avoir de débat dans les médias. Et ça, c'est vraiment une difficulté. Donc, les sceptiques français sont des géographes, des mathématiciens, des philosophes, des scientifiques de la Terre. Gérondeau, je ne sais pas dans quelle catégorie le classer. Donc ce sont des gens qui, pour une raison ou une autre, à un moment donné, veulent aller à contre-courant du courant dominant. C'est une question de liberté, comme vous l'avez dit. Il s'agit d'aller à contre-courant, oui, ou d'être aussi en vedette. Mais je pense que pour bon nombre d'entre eux, eh bien, leurs croyances, leurs convictions sont que la science et la technologie peuvent résoudre tous les problèmes. La nature doit être gérée et contrôlée par les humains. Ils croient fermement en la croissance, dans le progrès également, et ils sont contre l'alarmisme qu'ils considèrent comme étant anti-scientifique, anti-rationnel. Et ils sont contre l'environnementalisme qu'ils conçoivent comme une nouvelle religion. Donc voilà les racines profondes, à mon sens, de ce qui étaye leur expression au sein du débat public. Et c'est différent de ce qu'on voit aux États-Unis. Et souvent, on m'a demandé est-ce que les sceptiques français sont manipulés par un lobby ou autre. Bien, c'est très difficile d'analyser ce point. Mais ce que j'ai pu observer, c'est qu'au niveau européen, eh bien, il y a un lobby extrêmement bien organisé. Le Global Warming Policy Foundation et Gérondeau Courtillot font partie du conseil scientifique de cette organisation. Et qu'est-ce qu'ils portent? Eh bien, aux États-Unis, le gaz de schiste, même chose en Allemagne. Et la semaine dernière, en France, au sein de l'Académie des sciences, on a eu un débat sur le gaz de schiste. Donc, les motivations sont diverses et variées, mais rentrent dans le débat public de façon assez cohérente pour promouvoir l'utilisation des combustibles fossiles. Et au sein de l'Académie des sciences, lors du dernier débat sur les gaz de schiste, on n'a pas du tout évoqué les gaz à effet de serre ou les questions de savoir quelle est la véritable empreinte en termes de gaz à effet de serre du gaz de schiste, par exemple, si l'on tient compte des fuites de méthane. Donc ça, c'est très intéressant. Et par ailleurs, j'aimerais dire quelques mots non pas sur les sceptiques eux-mêmes, les personnalités que l'on reconnaît, mais de façon plus générale. Je pense que la société doute en général, mais on n'en parle pas, ça n'est pas politiquement correct. Plus les personnes sont âgées, plus elles sont éduquées, plus elles ont des doutes sur la climatologie. On peut demander aux ingénieurs, aux docteurs de médecine, aux députés du Parlement français. Ils ne le diraient jamais en public, mais ils expriment des doutes dans le cas de discussions en particulier. Donc il y a beaucoup à faire pour expliquer la science, pour convaincre donc ceux qui sont éduqués donc de la nécessité d'être sceptique. Je crois que c'est considéré comme un risque diffus, il ne s'agit pas d'une urgence. Et puis lorsqu'on en vient au niveau personnel, si je fais un discours de sensibilisation en France, ou si je parle à mes étudiants, eh bien ils disent que oui, ils se sentent préoccupés, ils aimeraient être actifs au niveau personnel et au niveau national et international, une sorte d'action coordonnée, parce que pourquoi agir si les autres n'agissent pas ? Et ils remettent en question, en fait, la juste distribution des coûts, qui devrait agir quand, et lorsqu'on parle du niveau de la mer, des glaciers, eh bien, en France, il y a cette histoire familiale et autres. On a l'impression de perdre quelque chose. Mais le même discours aux États-Unis avec le même type d'étudiants ou le public en général, eh bien, le sentiment qui est exprimé, c'est le manque de confiance envers le gouvernement et envers les scientifiques, pas vraiment envers les sociétés privées. Ça, c'est surprenant. Et certains, eh bien, sont préoccupés au niveau personnel, individuel, mais simplement à cette échelle-là, à ce niveau-là. Ils s'expriment préoccupés pour leur niveau de vie, l'emploi, l'économie, ça c'est très fort. Et ce qui est plus important encore, peut-être aux États-Unis, c'est que les gens ont le sentiment qu'ils peuvent s'adapter. Ils s'adaptent à l'économie, ils bougent d'une côte à l'autre en fonction de l'économie. Il n'y a pas ce sentiment de perte. Et ça, c'est la différence principale. Je pense qu'il y a moins d'ancrage dans un réseau social, à un endroit spécial. Les Américains sont moins attachés à certains aspects qui seraient probablement menacés par l'évolution du climat. Donc voilà les différents points que je souhaitais évoquer sur la base de mon expérience, du fait que j'ai été amenée à avoir des discussions avec des sceptiques. Je pense que nous avons perdu quelque chose au niveau de la communauté scientifique en général. C'est notre espace sur l'Internet, dans les blogs. Je suis convaincue, d'ailleurs en France également, que la communauté scientifique n'est pas suffisamment active dans ces sphères. Et les jeunes, eh bien, trouvent là leur principale source d'information, il ne faut pas l'oublier. Alors j'ai posé la question à mes étudiants, à quoi est-ce qu'ils font plus confiance ? Un papier scientifique, un article dans un journal comme Le Monde ou un article de blog ? Et en fait, ils ont davantage confiance dans l'article de blog et ils disent que c'est parce que là, ils peuvent suivre toute la discussion et se décider en fonction des différents points de vue exprimés après un article de blog. Et ça, c'est quelque chose que nous devons garder en tête. Avant de donner la parole à Mayana, j'aimerais mentionner quelque chose que j'ai lu dans le Guardian au début de la semaine, donc le journal britannique, en ce qui concerne les différentes voix qui s'expriment sur les blogs. Et c'était donc un article sur les prix qui allaient être décernés, le Bloggis en particulier. Et l'article disait, parmi les présélectionnés, la liste a été publiée en début de semaine, et il y avait la catégorie sciences et technologies. Dans cette catégorie, il y avait énormément de blogs des climato-sceptiques, mais ça s'était propagé à d'autres catégories, en particulier la catégorie du meilleur weblog sur la politique. Alors voilà, simplement pour mettre en exergue l'importance de ces blogs. Mayana. Je pourrais faire bon nombre de commentaires sur ce qui a été dit, mais je commencerai par mentionner une étude de James Painter, qui est journaliste de la BBC et qui a un rapport de 2011 qui s'appelle Pulls Apart, où il examine les sceptiques. reflète un phénomène plus profond qui s'articule de façon différente dans des contextes différents. Alors, il n'y a pas de climato-sceptique au Brésil au sein de la communauté scientifique, mais il y a un anti-environnementalisme qui est très fort dans le pays, qui travaille également avec les médias. Mais ce qui est intéressant, c'est que les termes du débat sont contrôlés en fait en amont, très clairement. Alors, je ne sais pas si je l'ai mentionné hier, mais je me suis penchée sur la couverture dans les médias brésiliens du changement climatique. Et ce qui est frappant, c'est ce qui ne fait pas l'objet d'un débat. Par exemple, le profil d'émissions brésiliens, plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre national sont liées à la production de viande. 80% viennent de l'utilisation des sols, si on inclut l'agriculture, donc déforestation, agriculture, etc. L'énergie représente 15%. Et pourtant, eh bien, ce dont on parle dans les médias, eh bien, on considère que c'est un problème qui est lié à l'énergie. Alors, ça, c'est lié, c'est clair. Mais cela reflète vraiment l'intérêt national pour les biocombustibles, l'éthanol. Et ils souhaitent avoir un accès au marché étranger. Et par ailleurs, une des manifestations, cela au Brésil, tient au fait de cet anti-environnementalisme. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment anti-environnementalisme. Il s'agit vraiment de la façon dont les termes du débat national sont définis. Eh bien, au Brésil, on n'a pas beaucoup d'espace pour ce qui est de remettre en question l'éthanol. Et on est vraiment sur la défensive. Lorsqu'on dit que c'est en concurrence avec la sécurité alimentaire, alors, effectivement, il y a des indications qui montrent qu'il y a des répercussions néanmoins et que ça limite la production, par exemple, de fleurs dans certaines régions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de cette analyse des médias, nous déterminons qui sont les acteurs, donc une analyse de réseau d'acteurs en quelque sorte. Et on constate que même les universitaires sont très timides au moment de remettre cela en question. Donc ce que je souhaiterais dire ici, c'est qu'il faut aussi examiner la situation dans les pays en développement, mais pas sous l'angle de ce qu'on fait dans d'autres pays, parce que quelqu'un qui est très marqué par le contexte des États-Unis ira au Brésil et dira il n'y a pas de sceptique, de climato-sceptique. Si, il y en a. Mais il y a aussi cette focalisation scientifique, mais il s'agit d'autres volets de la science pour ce qui est, par exemple, du déboisement ou la façon dont on traite de l'impact ou environnemental du biocombustible, parce que dans le prisme climatique sévère, il y a aussi les pesticides utilisés pour les biocombustibles. C'est un autre problème environnemental qui n'est pas vraiment couvert par les médias, qui ne figure pas dans le débat. Donc, comment les choses sont contrôlées? Ça, c'est un élément important. Et un autre aspect de mon étude était de voir en fait que le changement climatique, eh bien son cadrage, c'est le cadrage énergétique au Brésil. Et parmi les 20 premiers sujets de débat au Brésil, il n'y en a aucun donc qui porte sur la viande. On parle du déboisement, de la nécessité de réduire le déboisement, mais même la littérature universitaire hésite vraiment à aller plus loin en se demandant quels sont les facteurs donc en termes de consommation qui entrent en ligne de compte. Donc, vous voyez, la science donc, qui est utilisée pour définir la législation, eh bien, et il n'y a personne qui vienne des sciences sociales. C'est vraiment les sciences naturelles qui dominent. Donc, on n'a pas l'aspect plus sociologique, les analyses sociologiques, mais au niveau des politiques également. Un papier dans le rapport donc, que j'avais mentionné, qui a eu une incidence sur la législation environnementale au Brésil, adoptée en 2009, eh bien, le chapitre qui traite des politiques indique eh bien oui, il faut réduire le taux de déboisement et nous devons avoir de nouvelles politiques dans le secteur de l'énergie comme le transport. Et là, on rentre vraiment dans le détail de ces mesures dans le secteur du transport, inspection des véhicules, des normes plus élevées pour ce qui est des émissions, mais pour ce qui est du déboisement, rien. Et la couverture de la viande, eh bien, peut-être que si sur une année j'examine 700 articles des grands journaux qui traitent du changement climatique, je les analyse. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a procédé à une classification par catégorie, et il n'y avait pratiquement rien sur la consommation, le mode de vie au Brésil. Et parmi les 15 pays étudiés avec une analyse de médias de ce type, eh bien, c'était au Brésil qui avait le moins de dimensions culturelles. Alors j'ai procédé à des recherches en termes de consommation dans ces articles, et là encore on voit que c'est focalisé sur l'énergie, donc consommation de combustible. Mais où est-ce qu'on pouvait trouver la viande? Donc j'ai cherché viande, bovin, vache, bœuf, et je n'ai pratiquement rien trouvé. Donc sur 700 articles, eh bien, il y en avait 3 qui mentionnaient la consommation et la viande sous un angle un peu critique. Et lorsque je dis critique, eh bien, c'était parfois un peu comme Paul McCartney reçoit en fait un prix pour une bonne recette végétarienne. Ça, pour moi, ça rentre dans la catégorie des critiques contre la viande. Mais après, il y avait les articles à contre-courant à Sao Paulo, par exemple, qui, enfin, s'il y avait quelques articles qui traitaient de la consommation de viande comme étant un problème, après, en revanche, on avait des articles qui revenaient sur justement ces articles-là et disaient que la viande ne posait pas de problème. Donc on n'a pas vraiment de journal de gauche, mais enfin on a Morning Sao Paulo qui est un peu plus à gauche. Et puis, et là, par ailleurs, il y a les journaux qui se prêtent davantage à la publication des arguments des sceptiques. Donc, c'est vraiment très difficile même de trouver la moindre référence à la viande dans les médias. C'est ce que j'essaye d'expliquer donc dans les recherches futures, le fait d'examiner de façon plus approfondie le système de médias. Parce qu'au Brésil, il semble que les termes du débat soient décidés vraiment beaucoup plus en amont, beaucoup plus haut. Et ça amène à d'autres questions, l'équité, la démocratie, la participation. Et c'est ce qui a été dit hier. Je veux bien faire une analyse. Ce qu'il faut voir, c'est comment faire en sorte que chacun soit sur un pied d'égalité. Et l'aspect média, eh bien, doit être pris en compte. Et il faut vraiment, justement, par exemple, auprès de la communauté, sur l'environnement au niveau mondial, eh bien, dès qu'on aborde des choses qui semblent un peu politiques, eh bien, on n'est pas du tout à l'aise. Ils veulent faire de la science, pas de la politique. Et c'est très difficile d'agir ainsi parce que ces sujets sont aussi politiques. Sam Berman et d'autres vous diront, eh bien, il nous faut plus d'institutions, de recherche des gouvernements. Oui, mais lorsqu'on en vient au cas concret, la gouvernance, les institutions au Brésil qui ont trait à la viande, à ce moment-là, c'est très sensible parce qu'il y a des intérêts économiques énormes dans le secteur de la viande. Le lobby de l'agriculture est le plus fort au Brésil, des liens étroits entre les politiques et les médias. Et la viande, eh bien, symbolise l'émergence sociale, la mobilité vers le haut. Donc, il est très difficile d'aborder ces sujets-là. Et dernier point sur l'anti-environnementalisme au Brésil. Eh bien, les étrangers, les scientifiques sont présentés comme les ennemis. L'environnementalisme viendrait de l'étranger pour miner la compétitivité du Brésil, la production de soja, de viande, etc. Donc on a un cadre qui présente même les scientifiques nationaux comme faisant partie de ce processus parce qu'ils ont été formés en matière scientifique. Et en fait, l'environnementalisme, eh bien, c'est un complot des États-Unis et d'autres pour miner la compétitivité du Brésil sur le marché. Donc voilà un cadre très opérationnel au Brésil et il faut vraiment qu'on puisse appréhender toutes ces facettes. définir également la culture de nos propres environnements en tant qu'universitaire, et il faudrait y accorder plus d'attention. Alors, est-ce qu'il faudrait avoir une certaine possibilité à réagir? Mon directeur, donc, qui a présidé le GIEC, est très bien informé et il dit, eh bien, vous, dans les sciences sociales, vous avez un problème parce que parfois, eh bien, c'est de la politique que vous faites. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Donc, il faut vraiment être conscient de cela pour en arriver à la recherche qui se rapproche des questions politiques qui sont au cœur même des problèmes.
Thank you again.
Merci à nouveau. Je crois que je ne vais pas essayer de résumer tout ça. Je voudrais tous vous remercier. Nous avons décidé de donner 10 minutes environ aux commentaires et aux discussions de la part de la salle. Donc, vous avez la parole. Avec un micro, s'il vous plaît.
Oui, merci. Donc, merci à tout ce panel. Je voudrais juste soulever quelques mots qui seront en même temps des questions et peut-être aussi contributions pour des recherches. Je trouve très intéressant, alors une fois de plus, l'invitation de Riley Dunlap qui nous dit ne nous arrêtons pas juste à des images qui mettraient en scène, disons, des représentations un peu désincarnées de leurs acteurs, institutions, intentions, intentionnalités, de projets politiques et sociaux, économiques, etc., qui sont derrière ces figures. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça nous amène à cette notion un peu qu'on a vue aussi hier de controverse, enfin de dresser des cartes de controverse ou de dresser des cartes d'acteurs, d'institutions, de mettre en évidence, disons, les structures qui sont derrière ces images. Alors, en même temps, si cette invitation, ce type de modélisation pour la recherche scientifique me semble particulièrement pertinent, en même temps, on rentre du point de vue même des sciences sociales, on a actuellement des voix qui discréditent un peu ce type de travaux en disant que finalement, ce sont des travaux qui renvoient à la thèse du grand complot. Et finalement discréditent aussi ce genre de démarche et qui construisent aussi ce genre de démarche un peu comme presque des sciences guerrières. C'est-à-dire qu'on rentre dans une dynamique d'accusation réciproque, de dénonciation réciproque. Et c'est aussi ça peut être très piégeant aussi comme mode de communication dans les sciences sociales. Donc ça, je voulais le souligner pour dire qu'effectivement, il y a aussi une offensive, il me semble, il y a aussi un débat dans les sciences sociales autour de ce type de démarche qui n'est pas du tout confortable et si simple à déconstruire et à se protéger contre ce genre d'accusation. Par ailleurs, je trouvais aussi très intéressant, enfin, toutes les remarques par rapport à l'importance des blogs. Parce que je pense que ça renvoie aussi à la discussion qu'on a eue sur ou l'intervention précédente, je ne sais plus le nom de l'intervenant, je prie de m'en excuser, sur les inondations et sur l'importance de la participation du public à la construction de l'argumentation. Donc ça me semble intéressant aussi à mentionner. Il y a aussi cette question des figures. Des figures qui sont provocatrices ou qui sont... l'importance de la figure, je dirais, de la personnalité cynique ou de la personnalité qui met toujours en doute, etc. Je pense qu'on a effectivement aussi cette figure qui a une certaine force en France, qui est une figure qui a une certaine attractivité et qui peut autant se retrouver je dirais autant à gauche, très à gauche qu'à droite de l'échiquier politique en termes de sensibilité. Voilà, je voudrais juste encore, et désolée aussi pour la territorialisation, je pense que cette cette idée de... Ça renvoie aussi à la question de la participation, de voir comment sur les territoires, les régions, la controverse se construit, c'est effectivement une piste intéressante. Voilà.
Okay. I would say that be...
Je dirais que... Nous allons juste prendre quelques contributions et ensuite vous choisirez comment vous voulez répondre. Ce que je voudrais dire pour revenir à cette table ronde, c'est que vous avez d'abord une première. Phase sur la méthode et les implications normatives. Dans la discussion avec les organisateurs, il nous a semblé que c'était trop étroit et que tout le monde et qu'on devrait ouvrir plutôt vers les recherches futures. Mais pour en revenir à ce point-là, je crois que tout est lié. Parce que quand j'entends ce que vous dites, Riley, sur les recherches que nous devrions faire, ou ce que vous dites, Miana, ça me rappelle l'identification faite par Jean Foyer des différents niveaux de concurrence, ou peut-être de... les niveaux de désaccord ou les raisons du désaccord, c'est-à-dire les carrières épistémiques, politiques, les cosmogonies, les liens entre sciences et politiques. Et je crois que le changement climatique force beaucoup de gens à se remettre en cause à plein de niveaux différents. Parce que cela... refaçonne de manière très puissante les institutions, la manière dont les sciences sont créées, dont on discute l'adaptation, dont on prend des mesures politiques, etc. Vous avez dit, Riley, qu'il faut ajouter le niveau de la psychologie individuelle. Or, les anti ou les à contre-courant sont ce que j'appellerais le syndrome de Pardieu. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Gérard Depardieu. C'est-à-dire qu'il a été poussé aux extrêmes jusqu'à accepter un passeport russe. Bon, sur une note un peu plus sérieuse, je crois qu'il y a un point auquel nous n'avons pas fait suffisamment attention. Et c'est le dernier niveau, celui des cosmogonies, ou des liens entre sciences et politiques. Et comment les gens se sentent mis en cause à ce niveau-là. Ça pourrait mener à d'autres recherches pour voir comment les dénis ou le scepticisme est organisé dans différents pays. Comment est-ce que cela se passe aux États-Unis, où ça laisse tellement important, où il faut remettre en cause la science pour ne pas gêner les mesures politiques? Or, les politiques fondées sur les sciences, la vérité, ce sont des concepts américains. Peut-être faut-il organiser, disons peut-être les liens entre sciences et politiques sont différents aux États-Unis par rapport à la France ou à l'Allemagne. Ça serait intéressant de creuser cette question pour voir si l'on a moins de ce type de scepticisme en France ou en Allemagne qu'aux États-Unis. Donc voilà quelques réflexions et je vais passer la parole à Amina. Merci.
Because
L'un des problèmes soulignés à la fin de cet atelier et après cette deuxième table ronde, c'est qu'il est difficile de bien cerner le problème comme un problème mondial. Toutes les interventions se concentrent sur la manière dont la question est abordée dans différents pays. Bon, aux États-Unis, on le voit, Miana a également parlé sur la question du cadrage au Brésil. Et Valérie, qui n'était pas avec nous hier, a également insisté sur certains aspects purement français que nous avons essayé d'analyser hier par opposition aux États-Unis, etc. Et nous sommes bien confrontés à ces spécificités, mais nous devons garder à l'esprit le caractère global de la question, pas simplement au niveau scientifique, mais également au niveau politique. Puisque nous ne pouvons pas ignorer ce qui affectera les autres à différents niveaux. Et pour moi, il s'agit bien d'une question de réserve. Et les sciences sociales pourraient se concentrer sur la relation entre les questions globales et locales, ou mondiales et locales, dans le domaine de l'environnement et des politiques environnementales. Et le retour de bâton dans différents pays sur les questions de l'environnement et nous devons bien voir qu'il s'agit d'un phénomène global et nous devons donc poser la question de savoir comment aborder la recherche à ce stade-ci. Cosmologie, vision du monde, c'est peut-être le point d'entrée. Une dernière question et puis ensuite nous devons arrêter.
Ok. So very briefly to comment, I found that...
Alors, cet atelier est très intéressant et nous ne sommes plus en déni du déni. Ça, c'est la première chose. Et le scepticisme en matière de changement climatique pourrait être vu également par rapport à la théorie de René Girard, la théorie hermétique, dans la manière, en ce sens que nous choisissons nos ennemis et nos amis. Or, aux États-Unis, ce sont les sceptiques qui ont choisi leurs ennemis et le rôle qu'ils jouent. En utilisant, par exemple, des docteurs en sciences, etc. Alors, vous avez une minute chacun pour répondre. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Pour répondre à Stéphane, j'aimerais bien un projet cross-culturel ou cross-national, transnational. En Australie, il y a eu des attaques très vicieuses contre la science et il y a des scientifiques sociaux qui font du travail là-bas. C'est assez évident au Canada aussi et les gens commencent à travailler au Canada, bien sûr aux États-Unis. En Angleterre, le déni est sont assez actifs. Je ne sais pas si on l'y étudie. Nous avons besoin de la France, du Brésil. Je crois que certaines de ces structures nationales pourraient étudier le rôle des sciences et des politiques. Et ce qu'on trouverait, c'est que ça dépend un petit peu de l'ancrage des conservateurs dans le pays et dans les traditions qui existent dans les sciences sociales, leur lien avec les gouvernements, etc. Mais si vous devez tout expliquer, vous devez d'abord voir l'histoire de la dépendance par rapport aux combustibles fossiles, États-Unis, Angleterre, etc. Ensuite, une histoire récente des gouvernements néolibéraux, de Thatcher à aux autres, et puis la réflexion ou la pensée conservatrice. Si vous mettez les trois ensemble, vous verrez, vous aurez un beau sujet d'étude.
Okay. I think so. I agree. And
donc je suis d'accord. Et je pense que ce qui a été dit sur la polarisation, c'est important. L'exemple de Depardieu, et vous aviez mentionné Judy and Curry, et c'est un peu comme Freeman Dyson, qui n'est pas sceptique sur le plan environnemental, mais qui devient de plus en plus anti. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir aussi réfléchir à la raison pour laquelle ça se produit, à les dynamiques intergroupes, nous-mêmes d'ailleurs. Mais je pense aussi, et par exemple vous avez mentionné la psychologie, mais il y a aussi la dimension culturelle qui est forte. Freeman Dyson, Drew Zapper sont des physiciens, enfin il y a question de l'interaction, etc. Mais ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'il faut aller plus loin. Qu'allons-nous faire de ces connaissances? Alors, on montre du doigt, on a tendance à dire que ces scientifiques, eh bien, sont les méchants d'histoire. Ils font partie de quelque chose qui est plus vaste. Il y a un mécanisme de transformation. Alors, quel type de recherche nous permettrait d'avoir accès à ces différentes dimensions qui sous-tendent ce système? C'est ce que j'essayais de montrer dans le cas du Brésil, qu'il va falloir réarticuler. Et on retrouve donc les chartes des sociétés qui sous-tendent cela aussi, des éléments qui n'ont pas été établis pour promouvoir l'intérêt public. Il y a aussi les panels de citoyens danois. Enfin, quel type d'institutions sont les plus appropriées et comment pourrait-on faciliter le processus? Comment pourrait-on identifier d'abord les institutions qui sont les meilleures, quelles sont les résistances, et par ailleurs examiner cela sous l'angle scientifique, considérer les résistances sociales comme un thème de recherche, où est-ce qu'on peut apporter un changement? Je pense que par ailleurs, on a parlé de l'apathie. Alors, pourquoi est-ce que les gens sont apathiques? Comment est-ce que on pourrait avoir de meilleures institutions où les gens pourraient exprimer leurs préoccupations et comment on pourrait ainsi réfléchir aux implications de tout cela? Merci. Le micro ne fonctionne pas.
Denial of denial.
Alors, le déni du déni. Moi, je pense que le débat est essentiel. Il faut participer au débat avec des personnes qui ont des avis différents. C'est essentiel pour pouvoir progresser. Et à mon niveau, eh bien, j'aimerais dire que c'est la personne les plus curieuses. Et j'ai discuté avec effectivement les sceptiques et ça a été vraiment très utile d'aller jusqu'au bout des discussions, de discuter avec des personnes qui ont des avis complètement opposés sur l'interprétation des mêmes faits. Ça, c'est très important. Par ailleurs, la question du cadrage. Eh bien, je pense que la question clé en matière de cadrage porte sur deux points. Tout d'abord, les progrès. Comment est-ce qu'on conçoit les progrès au XXIe siècle sur la base de nos croyances, de notre psychologie? Enfin, vous emploierez les termes que vous voudrez. Et ensuite, deuxième aspect, la sécurité, énergie, eau, santé, agriculture, instabilité sociale. Donc, on a une grille, un tableau qui nous permet d'analyser ces différents éléments. Et la sécurité est un élément central des politiques conservatrices aux États-Unis. Et l'analyse des instabilités lors du printemps arabe, par exemple, eh bien, il y a des entrées multiples, y compris le changement climatique. pas seulement ça, mais enfin, c'est un aspect très important du débat, la sécurité. Et dernier point, eh bien, je ne suis optimiste que sur un point. Je ne suis optimiste qu'en ce qui concerne la possibilité d'avoir des changements brutaux dans notre système social. Et en janvier dernier, il y a eu un changement abrupt du fait de la très mauvaise qualité de l'air en Chine. Comme on l'a eu avec le fog à Londres dans les années 50. Donc c'est cette possibilité de changement abrupt due à la perception des risques immédiats qui est importante. Eh bien écoutez, merci à tous.